Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. De nombreuses réactions après que les talibans ont finalement interdit aux filles de reprendre l'école hier en Afghanistan. La députée communiste de Seine-Saint-Denis, l'ex-ministre des Sports Marie-Georges Buffet, lance un nouvel appel au micro de Radio Orient pour défendre les femmes afghanes, vous l'entendrez. Un mois après l'invasion russe de l'Ukraine, plus de la moitié des enfants en Ukraine ont dû quitter leur foyer pour fuir l'insécurité et les combats. Le front diplomatique, autant G7, Union européenne, trois réunions internationales ont lieu ce jeudi. Le rebond de l'épidémie de Covid-19 en France, les indicateurs de l'épidémie repartent à la hausse, comme le taux d'incidence qui augmente dans la totalité des départements et des tranches d'âge. Nous y reviendrons avec le docteur Jean-Louis Bensoussan, médecin généraliste, secrétaire général du syndicat MG France. Le festival des panoramas du Maghreb et du Moyen-Orient, cette année a une focus sur la Tunisie. C'est en ce moment des films diffusés dans plusieurs cinémas à Paris, dont celui de l'Institut du Monde Arabe. Emna Emrabet, docteur en cinéma, sera l'une de nos invitées. Quelques heures seulement après avoir annoncé la réouverture des collèges et lycées pour les filles, hier, les talibans ont finalement prié le même jour les élèves de rentrer chez elles. Des dizaines de milliers de filles étaient censées retourner ce mercredi à l'école secondaire, plus de 7 mois après l'arrivée au pouvoir des talibans qui ont fortement restreint les droits des femmes à l'éducation et au travail. Entretien avec la députée PCF de Seine-Saint-Denis, l'ex-ministre des Sports, Marie-Georges Buffet, qui lance de nouveau un appel pour défendre les femmes afghanes.
Je pense à toutes ces jeunes filles qui étaient heureuses de pouvoir reprendre leurs études, d'avoir accès aux connaissances et qui d'un seul coup se voient de nouveau repoussées au foyer, repoussées dans l'enfermement. C'est vraiment, encore une fois, j'appelle les États à ne pas reconnaître, à ne faire aucune ouverture à ce régime des talibans. Il faut vraiment les isoler de plus en plus pour et se battre pour que les femmes, les filles aient leurs droits.
C'est l'appel que vous lancez notamment aux autorités françaises.
Oui, notamment aux autorités françaises. Vous savez, je suis de nombreuses femmes sportives de haut niveau en Afghanistan. Certaines ont réussi à fuir, d'autres sont toujours là-bas. Elles sont extrêmement menacées uniquement parce qu'elles ont une pratique sportive. Et donc, ça touche le corps des femmes. Et donc, il faut monter le ton par rapport à ce régime et partout défendre le droit des femmes afghanes. D'ailleurs, j'ai lancé une pétition nationale pour qu'au JOP 2024 en France, on n'accepte pas des délégations nationales de différents pays où le sport est interdit aux femmes. On ne peut pas défiler aux Jeux Olympiques lorsqu'on interdit chez soi le sport ou l'éducation aux filles et aux femmes.
Vous avez été ministre des Sports et vous l'écrivez dans cette pétition. Alors que les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 auront lieu ici en France à Paris, nous voulons permettre à toutes les sportives afghanes qui le peuvent d'y participer. C'est important.
Oui, c'est important parce que quelque part, on veut nier la place des femmes dans la cité, on veut nier la place des femmes dans tout ce qui est, je dirais, l'éducation, le sport, la culture. Et je pense que c'est une grande cause nationale, internationale, de porter le combat des femmes afghanes, parce qu'il y a encore des femmes afghanes qui ont le courage de descendre dans la rue. Des fois, elles sont 20, des fois, elles sont 30, des fois, elles sont 50. Elles se font arrêter. Donc, je crois qu'il est important que des voix s'élèvent pour porter ce combat des femmes afghanes.
Vous êtes en contact avec des femmes afghanes. Lorsque vous discutez avec elles, qu'est-ce qui revient le plus fréquemment dans leurs propos?
La résistance. Aidez-nous à résister.
Concernant l'accueil des réfugiés afghans en France, Paris est-elle à la hauteur aujourd'hui?
Écoutez, le dernier entretien que j'ai eu l'occasion d'avoir avec le ministère des Affaires étrangères montre que Paris agit. J'ai eu l'occasion de remettre des listes d'ailleurs de sportifs de haut niveau. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est extrêmement difficile de faire sortir des personnes d'Afghanistan. C'est une bataille que mène le ministère des Affaires étrangères, mais c'est très, très difficile en ce moment de faire sortir, et cela depuis le début de l'année 2022.
Et ça, c'est un combat essentiel.
Mais bien sûr, c'est un combat essentiel. Je pense par exemple aux filles de l'équipe nationale de handball afghane qu'il faut aider à sortir de toute urgence, mais je pense aussi à des footballeuses, je pense aussi, voilà, il faut aider ces femmes à pouvoir quitter leur pays et surtout, et je sais que les fédérations sportives sont prêtes, à les accueillir en France pour qu'elles puissent continuer bien sûr à vivre et à pratiquer leur sport.
Avec cette actualité internationale marquée par cette tragédie en Ukraine, vous rappelez qu'il ne faut pas oublier le sort notamment des femmes afghanes.
Oui, parce que bien sûr, une actualité aussi dramatique que celle que nous connaissons en Ukraine fait que nous oublions ce qui s'est passé avec l'arrivée des talibans. Et donc il faut rester en éveil. Voilà, c'est le combat des femmes, c'est le combat, et on voit là, comment les femmes ukrainiennes font preuve également de courage. Mais n'oublions pas nos sœurs afghanes.
Marie-Georges Buffet, députée PCF de Seine-Saint-Denis, ex-ministre des Sports. OTAN, G7, Union européenne, trois réunions internationales ont lieu ce jeudi, un mois après le début de l'invasion russe en Ukraine. Des sommets à Bruxelles en présence du président américain. Selon la Maison-Blanche, il s'agit surtout de consolider l'arsenal de sanctions déjà prises pour éviter les tentatives de contournement de Moscou. Joe Biden qui doit se rendre en Pologne demain. Plus de la moitié des enfants en Ukraine ont dû quitter leur foyer pour fuir l'insécurité et les combats. C'est une annonce du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. La guerre a entraîné le déplacement de 4 300 000 enfants. La nouvelle allocation chômage sera versée à partir de lundi prochain en Algérie, une allocation de 13 000 dinars par mois. Une annonce du directeur général de l'Agence nationale de l'emploi. Il indique que le nombre de primo-demandeurs d'emploi concernés est de 580 000 personnes. Une première en Tunisie depuis la crise sanitaire internationale. Un navire de croisière a accosté dans un port tunisien. Il transportait plus de 700 passagers. Des Britanniques, mais aussi des Allemands, Italiens et Espagnols ont accosté au port de La Goulette. Les autorités tunisiennes espèrent ramener le nombre de visiteurs et les dépenses à 60% des niveaux de 2019, c'est-à-dire avant la pandémie. La Corée du Nord a tiré aujourd'hui un missile balistique intercontinental, le premier lancement d'une arme aussi puissante depuis 2017. Le missile est arrivé jusque dans la zone maritime économique exclusive du Japon. Cela rompt un moratoire que Pyongyang s'était auto-imposé depuis 2017 sur ce type d'essai d'armes, au risque de déclencher une spectaculaire montée des tensions dans la région. Et cela arrive après une dizaine d'autres essais d'armes menés par la Corée du Nord depuis le début de cette année. Les contaminations au Covid-19 augmentent en France. Les indicateurs de l'épidémie repartent à la hausse, comme le taux d'incidence, une hausse dans la totalité des départements et des tranches d'âge. Entretien avec le docteur Jean-Louis Bensoussan, médecin généraliste, secrétaire général du syndicat MG France.
Ces mesures, la fin du port du masque, je crois qu'elles étaient raisonnables au vu de la situation épidémiologique d'il y a une quinzaine de jours, trois semaines, quand cela a été décidé. Et puis les gens étaient dans l'attente et d'autres pays l'avaient fait avant nous. Le fait que ça ait coïncidé avec aussi la levée du pass vaccinal était peut-être un peu précipité, c'est-à-dire que le fait d'avoir mis les deux chose en même temps a fait que les gens ont pensé que tout était fini, quoi, et qu'on pouvait recommencer comme avant. C'était peut-être un peu trop de faire ces deux choses dans le même temps.
Et vous rappelez justement que tout n'est pas fini et que le nombre de cas continue d'augmenter. Et même aujourd'hui, le nombre d'hospitalisations qui avait baissé.
Alors, voilà, c'est le phénomène un peu nouveau, c'est que le nombre d'hospitalisations qui baissait régulièrement, aujourd'hui ne baisse plus. Alors il remonte plus trop, mais il ne baisse plus, donc c'est peut-être un signe qu'il y a quand même quelques formes un peu plus graves qui commencent à se manifester. Et donc il faut une très grande vigilance par rapport à ça, et je pense que s'il y a une petite remontée de ces formes graves, il va falloir revenir peut-être sur un certain nombre de ces mesures dites barrières.
Et vous soulignez que ce n'est pas parce que le port du masque n'est plus obligatoire qu'il n'est plus nécessaire.
Absolument, il est fortement recommandé dans un certain nombre de lieux. Et puis surtout, il est recommandé si on est malade. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut que nous gardions tous autant que nous sommes. C'est-à-dire qu'à partir de quand on est malade, quand on tousse, quand on éternue, même qu'on a un mauvais rhume, une grippe, eh bien, il faut porter un masque pour protéger les autres. Ça me paraît être quelque chose qu'on a appris depuis 2 ans et qu'il faudra continuer à avoir. Et non pas considérer que le masque, c'est complètement fini. Les personnes à risque continuent à porter le masque de manière assez systématique aujourd'hui. Dès qu'ils sont dans un magasin, dans un endroit où il y a un petit peu de monde, vous le voyez dans les rues, les personnes âgées conservent le masque très souvent. Donc, ils ont cette notion de se protéger aussi, aux autres, de penser aussi à eux et de peut-être porter aussi un masque quand on est dans des endroits un peu fermés avec des personnes à risque autour.
Et justement, conseillez-vous le port du masque FFP2 aujourd'hui ?
Non. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de passer du masque chirurgical au masque FFP2. Non, le masque chirurgical suffit largement quand il est porté, notamment par les deux personnes qui sont face à face.
Que dites-vous aux personnes à risque face à cette situation ?
Les personnes à risque, en tout cas celles qui sont très âgées, plus de 80 ans, c'est de faire une deuxième dose de rappel comme c'est aujourd'hui maintenant préconisé. Je crois que c'est important de penser à le faire. Voilà, si on est à 3 mois de la première dose de rappel, il faut faire sa deuxième dose de rappel pour relancer sa protection immunitaire, qui est très bonne après une dose de rappel, mais qui est encore meilleure après 2 doses de rappel au bout de 3 mois. Donc ça, il faut le faire. Et puis, si elles ne sont pas encore dans cette tranche d'âge, mais qu'elles se sentent à risque, eh bien, il faut qu'elles disent à leur entourage de continuer à faire un peu attention en portant le masque quand on est ensemble et en ne recommençant pas à s'embrasser ou à se serrer les mains dès qu'on est face à face.
Donc maintenir les gestes barrières vis-à-vis de ces personnes, leurs proches, absolument. Leur conseillez-vous de se faire tester lorsqu'ils vont les rencontrer ?
C'est une fausse protection en fait de se dire j'ai un test négatif, alors je peux faire n'importe quoi. Ça a été un mauvais message qui a été porté à un moment. Non, il faut se protéger avec un masque et protéger les autres avec ce même masque.
Et limiter les contacts, bien entendu, lorsque l'on se sent patraque.
Absolument.
Le docteur Jean-Louis Bensoussan, médecin généraliste, secrétaire général du syndicat AMG France. La deuxième semaine du Festival des Panoramas du Maghreb et du Moyen-Orient, des films diffusés dans plusieurs cinémas à Paris, dont celui de l'Institut du Monde Arabe, avec cette année un focus sur la Tunisie. Un cinéma qui connaît une grande vitalité depuis la révolution de 2011, avec la réalisation de très nombreux documentaires. Je vous propose d'écouter Emnam Rabet, docteur en cinéma et spécialiste des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient.
C'est une programmation qui va vraiment faire la part belle au documentaire, ce qui est vraiment très appréciable par rapport à cette programmation. On peut citer le documentaire Au-delà de l'ombre, le documentaire également Roflan, ou Les promesses du printemps. Donc c'est le documentaire de la Germaine et qui s'est déjà beaucoup fait connaître à travers la fiction, notamment à travers Satin Rouge. Et là donc c'est un documentaire qui va revenir sur l'histoire d'une jeune femme noire qui se lance dans la politique. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont vraiment des films du coup qui c'est une programmation qui met vraiment en avant des minorités invisibilisées. Donc ce sont des films qu'on a peu la chance de découvrir à Paris ou en France, et que donc là ils vont vraiment être mis en avant dans ce festival. Pour ce qui est aussi des inédits, on peut parler aussi du film Redoua, qui sera projeté le 30 mars à l'Institut du Monde Arabe. Et donc là, c'est vraiment une avant-première, puisque c'est un film qui a été réalisé par l'acteur tunisien Zafel Abidine. Donc c'est un acteur qui s'est aussi beaucoup fait connaître, notamment à travers les feuilletons et les séries télévisées. Et donc là, c'est la première fois qu'il passe à la réalisation.
Le cinéma tunisien connaît une grande vitalité ces dernières années, notamment parce que les Tunisiens vont au cinéma. Les films tunisiens sont bien distribués en Tunisie.
On peut dire oui, effectivement, qu'il y a vraiment un regain de vitalité du cinéma tunisien en Tunisie, que les spectateurs vont vraiment en masse dans les salles voir les films tunisiens parce qu'ils sont énormément soif de ces films qui les représentent, de ces films qui sont là comme des miroirs. Et on peut même considérer que et quelque part, ces films tunisiens deviennent vraiment des blockbusters et ils font l'événement. Hein. Voilà, donc effectivement, il y a maintenant une meilleure, en tout cas, distribution et un meilleur soin donné à tout ce qui est communication, distribution, etc. Ce qui n'était pas le cas avant. Hein, bien sûr.
La liberté d'expression qui a été un des acquis de la Révolution se traduit notamment dans l'expression cinématographique.
La liberté d'expression, oui, bien sûr. Tout à l'heure, je parlais justement du genre documentaire qui n'existait pas avant la Révolution, parce que c'était compliqué, enfin qui n'existait pas, qui était en tout cas très très compliqué à, c'était très compliqué de tourner des documentaires, d'avoir des autorisations, etc. Et donc là, par exemple, c'est quelque chose qui s'est libéré avec la Révolution. Il y a aussi une multiplication des formes cinématographiques. Hein. On peut bien sûr mieux s'exprimer que ce qui était le cas sous la dictature. Il y a beaucoup moins de censure. Alors après, il y a d'autres formes de censure. En tout cas, la censure politique a été levée. Oui, bien sûr.
Alors ce festival, il faut le rappeler, existe depuis plus de 17 ans. On peut rappeler exactement où on peut aller voir les films, puisque vous avez mentionné l'Institut du Monde Arabe.
Oui, alors après la deuxième semaine, le festival ne va pas beaucoup plus se déployer sur les salles qu'à l'Institut du Monde Arabe, au cinéma Le Luxor, au cinéma Le Studio également et à l'Espace 89.
Et voilà. C'est une occasion de voir des films qu'on ne voit pas souvent en France.
Oui, exactement. Justement, en fait, la grande force de ce festival, c'est de mettre en avant des cinématographies qui sont peu visibles. Alors maintenant, on distribue un peu mieux ces cinématographies-là, mais elles restent quand même, on reste quand même en deçà de ce qui serait souhaitable. Et là, c'est vraiment l'occasion de profiter de cette magnifique programmation cette année où il y a un focus Turquie et une fenêtre Tunisie plutôt contemporaine.
Emna Rabet, docteur en cinéma, spécialiste des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Elle répondait à Loïc Barrière. Fin de cette édition. Vous êtes bien sûr Radio Orient à 12h30, votre journal en langue arabe avec Roger Coury. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Et si on en parlait à 19h et 23h, le thème de cette émission, 60 ans après les accords d'Évian, où en sont les relations franco-algériennes? Alexis Bachelet recevra Naoufel Brahimi El-Mili, politologue, chercheur en histoire, spécialiste de l'Algérie et Rosa Moussaoui, grand reporter au quotidien L'Humanité. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, il est 12h16.